parce que nous recevons notre salut par la foi. Donc si nous allons vivre selon la parole de Dieu, nous allons le faire pour avoir une vie abondante, une vie riche, une vie belle et une vie qui exprime notre reconnaissance à l'Éternel. Et pour ça, nous avons vu aussi, il nous faut l'Esprit, il nous faut l'Église et il nous faut surtout sa parole. C'était les propos des deux premiers messages. Et alors, la semaine dernière, nous avons commencé à considérer ce que la parole nous dit sur des questions précises. Les questions qui se trouvent dans la deuxième partie du livret que nous avons distribué. Si la loi de Dieu se résume en deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, quels sont les principes bibliques qui doivent guider notre vie pour que nous puissions vivre cet amour? Quels sont les principes précis? Le premier principe que Jean-Serge nous a expliqué le dimanche dernier, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu, à son image. Et c'est pour ça que chaque être humain est digne de notre respect et de notre amour. Même ceux qui se positionnent comme nos ennemis. C'est pour ça que la violence envers les autres, que ce soit par nos paroles ou par nos actes, c'est une offense contre Dieu lui-même, parce que chaque être humain est fait en son image. C'est pour ça que notre négligence de ceux qui sont dans le besoin, c'est une offense contre Dieu lui-même. L'amour pour les autres, créé chacun à l'image de Dieu, est la base de notre obéissance à Dieu. Mais si l'être humain est le point culminant de la création, il n'est pas la seule chose qui est importante dans la création. Au contraire, comme nous avons vu déjà ce matin, tout ce que Dieu a créé était bon. Tout ce qu'il a fait était merveilleux et glorieux. Il est digne donc de notre respect. La création est digne de notre respect. Nous avons déjà vu dans le passage que j'ai lu de Genèse 1. Maintenant, nous allons lire Genèse 2 à partir du verset 15. Après avoir expliqué que l'homme et la femme étaient créés tous les deux à l'image de Dieu à la fin du chapitre 1, le chapitre 2 rajoute des détails. Je lis Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive, et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Amen. Pendant 6 jours, l'Éternel a déclenché sa créativité infinie pour mettre en place les lois qui gouvernent l'univers, pour éparpiller les étoiles et les galaxies, pour tisser l'ADN de chaque être vivant, pour faire jaillir les eaux et les arbres et la lumière. Et puis, au milieu de tout ça, il a osé placer la femme et l'homme. Et je dis bien oser, parce qu'il ne nous a pas placés sur terre simplement pour que nous ayons un lieu pour vivre. Il nous a donné la responsabilité de cultiver et de garder cette création. Selon verset 15, cultiver et garder. Nous avons déjà vu la semaine dernière comment Dieu a fait de l'être humain le point culminant de la création. Il a couronné de gloire et d'honneur, selon le psaume 8. Et cette gloire et cet honneur ne se trouvent pas simplement dans le fait que nous sommes les êtres au centre de toute la création, faits à son image. Ça commence là, bien sûr, mais cet honneur et cette gloire se trouve aussi dans le fait que nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Et c'est donc à nous de prendre soin de cette création. C'est comme si un grand peintre avait commencé un grand tableau, le tableau qui serait son chef-d'œuvre. Il réfléchit sur ce qu'il veut créer. Il rassemble tous ses matériaux, pots de peinture, toile, brosse, et il esquisse les formes et les lignes sur la toile. Et puis, il fait quelque chose de surprenant. Il donne sa brosse à son enfant. Et il lui demande de terminer son chef-d'œuvre, de le remplir de couleurs, de continuer le tableau que lui, il a commencé. Il confie ce projet qui lui est très cher et qui est déjà magnifique à quelqu'un d'autre, pour le maintenir et pour l'élaborer. C'est ce que Dieu fait avec sa création. Il nous donne l'intendance de la terre. C'est la première raison que notre comportement chrétien doit être marqué par un respect pour la création. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a créés. Et c'est un immense privilège, cultiver et garder la terre. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour notre vie quotidienne? Très peu d'entre nous ici ce matin ont l'impression de cultiver la terre, j'imagine. Sauf si je me trompe, il n'y a pas d'agriculture dans la salle ce matin. S'il y en a, levez la main, mais je ne pense pas. Et dans tous les cas, ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Et d'abord, je sais que j'en parle assez souvent, mais il faut reconnaître que ce mandat de cultiver et garder la terre, ça va bien au-delà de la nature. Il inclut notre responsabilité de prendre le monde naturel que Dieu nous a donné et d'en construire une société. Votre boulot, quoi qu'il soit, si vous le faites bien et avec justice, votre boulot fait partie de cette mission. Enseignant, cuisinier, avocat, fonctionnaire même, informaticien, constructeur, écrivain, commerçant. Ce ne sont pas juste une façon de gagner sa vie. Ce sont des opportunités de prendre la création que Dieu nous donne et d'en faire quelque chose, de remplir le tableau de couleurs avec notre vie. Alors, cela dit, nous allons quand même focaliser ce matin sur le rapport entre notre vie et le monde naturel en particulier. Dans quelques semaines, nous aurons aussi un message qui abordera le thème de notre travail en général et la relation, le rapport entre notre travail et notre vie chrétienne. Comment voir notre travail d'une perspective biblique? Mais aujourd'hui, nous allons réfléchir surtout sur la création elle-même, toutes ces merveilles dont nous avons lu au début du culte et dont nous avons chanté, Dans notre vie quotidienne, comment devons-nous réagir à l'appel spécifique que nous avons à protéger le monde naturel? D'abord, notons que nous devrions être, en tant que chrétiens, les premiers à valoriser un usage de nos ressources naturelles qui est sage et qui évite une exploitation destructrice. Lorsque Dieu dit à Adam et Ève de dominer sur les animaux, c'est dans le cadre de cultiver et protéger. Le terme « dominer », ça peut apporter de la confusion. Mais dans ce passage, ce terme signifie « mettre de l'ordre, dompter le chaos qui existait ». Ce n'est pas « dominer » dans le sens d'écraser ou d'épuiser. Parce que comme Jésus l'explique et comme il le vit, l'autorité biblique, c'est toujours une autorité qui sert aux autres. C'est l'autorité d'un servant. Et malheureusement, tout comme certaines personnes ont pris le texte biblique pour justifier l'abus d'autres êtres humains, comme Jean-Serge l'a bien dit la semaine dernière, il y a des gens qui ont pris le texte biblique pour justifier le fait de nier l'égalité de l'homme et de la femme ou des races. Certaines ont aussi pris ce terme « dominer » en Genèse 2 pour justifier l'abus de la création. Mais cela, c'est une déformation de la parole de Dieu. Si nous laissons l'Esprit nous guider, si nous laissons l'Esprit nous parler à travers cette parole, nous voyons en fait que Dieu chérit sa création. Et qu'en le dominant, nous n'avons aucun droit à la détruire. Dieu a même précisé dans la loi de Moïse, par exemple, que le sabbat s'applique à la terre autant qu'à l'être humain. Vous saviez que le sabbat était donné pour la terre aussi. Tous les 7 ans, les Israélites étaient obligés de laisser leurs champs en jachère, de ne rien semer et de ne rien cultiver. Alors, d'un côté, ce sabbat rappelait au peuple que c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Mais l'autre but du sabbat était que la terre ne s'épuise pas. Et si nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, parce que nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance, comme nous avons dit au début de la série, ce principe est toujours valable. Avoir un usage de nos ressources naturelles qui ne les épuise pas, c'est un principe tout à fait biblique. Réduire la pollution, réduire notre consommation et nos déchets, conserver les espaces naturels, protéger les espèces en danger, ce sont des valeurs chrétiennes. Il faut en être conscient. Et si certaines cultures non chrétiennes valorise ces choses, tant mieux. Si la France et les autres cultures occidentales ont commencé enfin à se rendre compte que c'est important de protéger notre environnement, c'est bien. Mais n'oublions pas que pour nous, c'est une valeur qui remonte au moins 4000 ans. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, et ça remonte même plus loin lorsqu'on se rend compte que ça fait partie de la parole éternelle de Dieu. Si nous partageons cette valeur éternelle avec notre culture, c'est important que nous reconnaissions pourquoi nous le faisons. Pour un chrétien, c'est parce que ce respect pour la création découle de notre reconnaissance et notre connaissance de la parole de Dieu. Et c'est l'un des buts de cette série de messages, d'ailleurs, de voir non pas juste comment vivre, mais pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le caractère de Dieu lui-même qui nous amène à ces valeurs? Sinon, si nous ne savons pas pourquoi nous avons ces valeurs, d'où elles viennent dans la parole, nous aurons de plus en plus de mal à distinguer entre les valeurs que nous partageons avec la culture et que les valeurs que nous devrions partager avec la culture. Et si nous ne voyons pas que pour nous ces valeurs trouvent leurs racines dans la parole de Dieu, nous risquons aussi de perdre notre motivation. Je ne sais pas si vous faites des choses parce qu'une affiche dans le métro vous le dit de le faire, mais moi, en général, non. Et donc, c'est une chose de voir dans le métro une affiche qui dit qu'il faut faire le tri, qu'il faut protéger l'environnement. Mais c'est une autre chose complètement de reconnaître que c'est quelque chose qui se trouve dans la parole de Dieu. Si en tant que chrétiens, nous respectons la création, ce n'est pas par simple désir d'être un bon citoyen ou de garder un peu de beauté sur la terre pour nous-mêmes. C'est par respect pour le Créateur qui nous donne ses bénédictions. De même, ce n'est pas parce que j'ai vu un reportage sur TF1 sur les abattoirs français que je sais que nous ne devons pas être cruels envers les animaux. C'est parce que c'est une valeur biblique. La loi de Moïse exigeait aux Israélites à ne pas mettre de muselière à un bœuf pendant qu'il foulait le grain. Pourquoi il y avait cette loi? Le texte en Deutéronome n'explique pas la raison pour cette loi, mais on peut bien supposer que c'était parce que normalement un bœuf ne mangeait pas de grain. Et dans ce cas-là, c'était cruel de le faire fouler le grain sans le laisser en manger un peu. On pourrait trouver ça bizarre que Dieu trouve ça important, qu'il y ait une loi biblique par rapport à ça. Mais ça se voit dans d'autres passages aussi. En Proverbe 12, 10, nous lisons que le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. La cruauté envers les animaux va contre la justice de Dieu. Vous voyez à quel point Dieu est un Dieu d'amour, que son amour s'étend jusqu'à toute sa création. Le but de cette série, le but de nos études, c'est de comprendre la nature, le caractère de Dieu. Et à travers ces passages, nous voyons à quel point Dieu est un Dieu d'amour. Jésus nous dit que notre Père voit chaque moineau qui tombe. Alors certes, Dieu nous a donné les animaux comme nourriture, mais cela n'est pas une excuse pour la cruauté. Alors, je ne vais pas me prononcer sur les débats qui ont eu lieu récemment en France à cause de ces reportages et tout ça, parce que j'avoue que je ne connais pas tous les détails. Mais c'est une question qui nous concerne, parce que c'est une valeur biblique. Dieu n'est pas un Dieu de cruauté, ni d'exploitation. Il est un Dieu de compassion et d'amour envers toute sa création. Et notre façon d'agir et notre façon de penser par rapport à ces choses devrait refléter son caractère. C'est pour ça que nous sommes créés à son image, pour que nous soyons capables de prendre soin de sa création d'une façon qui ressemble à ce qu'il ferait lui-même. Ça fait partie de notre témoignage et de notre responsabilité en tant que ses représentants sur terre. Alors, si nous prenons soin de la création, au fond, c'est notre amour pour Dieu qui nous motive. Nous avons vu à plusieurs reprises comment toutes les prescriptions de Dieu renvoient au Dieu grand commandement. Dans le premier, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais en fait, cette question du respect pour la création touche aussi le deuxième. Vous vous souvenez du deuxième? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce principe de respect pour la création renvoie à ce commandement d'aimer notre prochain parce que cette terre a été donnée à toute l'humanité. Et si nous la détruisons, c'est nous tous qui allons souffrir. Si par notre cupidité, nous poursuivons une façon de vivre qui épuise les ressources de la terre, ce n'est pas juste un péché contre Dieu, c'est aussi un péché contre les autres. En fait, très souvent, ce sont les plus démunis, que ce soit les individus ou les pays. Ce sont les plus démunis qui vont souffrir le plus face à l'abus de la planète, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se protéger. Si les eaux sont polluées, par exemple, qu'est-ce que les riches vont faire? Ils vont acheter de l'eau ailleurs. Mais les pauvres n'ont pas ce luxe. Et tout au long de la Bible, Dieu nous rappelle que nous devons toujours chercher à protéger les démunis, les marginalisés, ceux qui vivent dans la précarité. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'étudier plus profondément ce que la Bible dit par rapport à notre responsabilité envers les démunis. Et je ne vais donc pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais n'oublions pas que notre façon de gérer la création est aussi une question de justice et d'amour envers les autres. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire simplement moi, je prends soin de mon voisin et il est plus important que la création et donc pas besoin de s'occuper de la création. Bien sûr, s'il fallait choisir entre le bien d'un être humain et celui d'un animal ou de l'environnement, il faut mettre l'être humain en priorité. Mais prendre soin de la création est un commandement de Dieu, en partie parce que c'est une façon de prendre soin de notre prochain. Et c'est vrai que nous pouvons avoir l'impression d'avoir très peu d'influence dans ce domaine. Je ne peux pas personnellement arrêter le réchauffement climatique. Je ne peux pas personnellement empêcher les grandes entreprises d'épuiser les ressources naturelles de la planète. Mais nous vivons dans une société où nous pouvons exprimer notre avis, nos valeurs, et ça en partie par notre argent, par la façon dont nous utilisons notre argent. Nous vivons dans une société où nous pouvons choisir de ne pas consommer ou acheter certaines choses, si nous apprenons que leur fabrication contribue à la destruction de l'environnement. Nous pouvons encourager des pratiques qui respectent la création à notre travail ou à notre maison. Et parfois, ces choix nous semblent peut-être n'avoir qu'une valeur symbolique. Mais en tant que chrétiens, nous devons reconnaître le pouvoir d'un geste symbolique. Parce qu'un geste symbolique, c'est un témoignage. Une vie qui témoigne du caractère de Dieu par sa beauté. Nous vivons dans une culture qui a fait une idole de la consommation. Vous avez constaté à quel point la consommation, c'est une idole dans cette culture. Alors que la Bible nous appelle à une vie de simplicité. Encore un sujet que nous allons aborder dans les semaines à venir. Si nous acceptons le mensonge que nous pouvons consommer sans penser aux effets de nos choix, nous devons complices dans l'idolâtrie de notre culture. Une idolâtrie qui élève nos désirs au-dessus des besoins des autres. C'est un danger particulièrement grave pour nous qui vivons dans un pays relativement riche par rapport au reste du monde. Je pense que vous en êtes conscient, mais il ne faut pas oublier à quel point nous sommes riches ici en France par rapport au reste du monde. Et ça veut dire que nous avons certaines tentations qui sont plus difficiles pour nous. Nous avons la tentation d'idoliser la consommation. Un autre danger par rapport à l'épuisement de la terre, pour nous les chrétiens en particulier, c'est d'imaginer que les efforts d'être écologique ne servent à rien dans tous les cas parce que finalement Dieu va tout détruire à la fin des temps et que c'est mieux donc d'en profiter pendant qu'on peut. Extraire tout ce qu'on peut avant que ça brûle. Et j'avais un ami qui, quand j'étais plus jeune, qui avait décidé justement pour cette raison que c'était pas la peine de prendre soin de l'environnement. Tout va brûler dans tous les cas, il disait. Et une fois, je lui ai dit que ce serait peut-être bien de ne pas verser l'huile de sa vidange sur la terre derrière sa maison. Et c'était ça, sa réponse. Tout va brûler, donc peu importe. Et il rigolait un peu. Mais il croyait bien que le verset en 2 Pierre 3, 10, qui dit qu'à la fin des temps, la terre sera brûlée, que ce verset signifiait qu'on peut s'en ficher. Mais j'espère que c'est évident, à la lumière de ce qu'on vient de voir, que ce n'est pas le cas. Nous sommes appelés à cultiver cette terre par respect de son Créateur et par amour pour notre prochain. Cette terre est une bénédiction que Dieu nous donne à nous tous. Et c'est une responsabilité pour nous tous. Il ne faut pas oublier non plus qu'à la fin des temps, Dieu ne va pas abandonner cet univers. Il va le purifier par le feu, certes, mais ce qui sort du feu sera restauré et il va en faire son temple éternel. C'est ça tout le sens de l'Apocalypse 21. La nouvelle terre et le nouveau ciel, tout restauré. Et nous sommes donc appelés à traiter cette création déjà comme quelque chose qui lui est cher, parce que c'est sa création et elle est bonne. Et si tout cela n'était pas assez, il y a une dernière raison que nous devons respecter la création. C'est parce qu'elle révèle la majesté de l'Éternel, notre Dieu. Écoutons le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil paraît un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La création raconte la gloire de Dieu. Et c'est le troisième point sur la diapo si on avance. Même si ce n'était pas notre devoir, notre rôle en tant qu'être humain, et même si ce n'était pas une question de justice envers les autres êtres vivants, les animaux et les humains, le fait que la création témoigne du Créateur et nous révèle sa gloire, ça nous pousse à la respecter et à la protéger. C'est tout à fait juste quand on voit un beau coucher de soleil ou une belle fleur, ou quand on est émerveillé par la complexité de l'atome ou l'immensité des galaxies, de se dire « voilà la main de Dieu ». Mes enfants aiment bien regarder les documentaires sur la nature à la télévision, les galaxies ou les animaux. Et une partie de cet émerveillement, c'est le fait que Dieu a créé tout ça. Tout ce que nous voyons, ça témoigne de la grandeur de notre Dieu. Parce que là, dans le monde naturel, nous voyons la main de Dieu. C'est sa parole qui a créé tout ça. Vous en rendez compte? C'est en parlant que Dieu a fait que toutes ces choses existent. Et c'est par la volonté du Christ qu'elles continuent à exister. Vous êtes rendu compte, le passage que nous avons lu avant la Sainte Cène. Qu'est-ce qui fait que l'univers existe? Nous avons lu, tout subsiste en lui. Je vais le relire. En effet, c'est en lui, en Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Dans toute la création, nous voyons la puissance créatrice du Christ. Et si le Christ peut créer tout ça, imaginez ce qu'il peut faire dans votre vie. C'est en lui que toute chose subsiste. Subsiste, ça veut dire avoir la capacité à continuer à exister. Si le Christ cessait d'exister, si une telle chose était possible, Si le Christ n'était plus là, tout ce que nous voyons autour de nous cesserait d'exister. C'est la parole de Dieu, Christ lui-même, qui a tout créé. Et c'est grâce à lui que tout ce qui existe continue à exister. Jésus est littéralement la force derrière toutes les autres forces de l'univers. Toutes les lois et les forces physiques qui constituent le tissu de l'univers, elles reviennent à Christ. C'est ça le sens de ce verset. Tout ce qui existe subsiste en lui. Et donc, je vous encourage, comme point d'application très concrète, être attentive au cours de votre journée, de votre vie quotidienne. Je vous encourage à être attentif à cette réalité que Christ est derrière toute chose qui existe. Toute la création, de la molécule la plus petite jusqu'à la galaxie la plus grande, toute la création existe grâce à lui et témoigne de sa présence. Soyons attentifs chaque jour à ces signes de la main de Dieu. Parfois, nous attendons un miracle pour dire « voilà la main de Dieu dans ce monde ». Mais tout ce que nous voyons est un miracle. Ne soyons pas comme les scientifiques modernes qui cherchent à comprendre la création sans Dieu. En nommant les animaux, Adam était le premier scientifique du monde. Il était le premier biologiste. Il a regardé la création de Dieu, il a cherché à la comprendre en distinguant entre les espèces et en trouvant des mots pour en parler. Et donc, si depuis le siècle des Lumières, la science occidentale cherche à expliquer la création sans créateur, ça n'a pas toujours été le cas. À la base, la science rend gloire au Créateur car c'est la recherche de la connaissance de ses œuvres. Mais trop souvent, nous, même nous les chrétiens, nous sommes comme les scientifiques non-croyants. Nous ne voyons plus la main du Créateur dans sa création, alors qu'elle est bien là. C'est tellement facile de considérer tout ce qui nous entoure comme acquis, d'oublier à reconnaître la grandeur de Dieu dans les petites choses qui sont en fait de grandes choses. L'air, le soleil, la pluie, cette salle. Ces choses sont la création de Dieu et dans ce sens, elles sont sacrées parce qu'elles sont l'œuvre de l'Éternel. Alors, faisons attention, j'ai dit sacré, je n'ai pas dit divin. C'est une distinction importante, parce que par sacré, je veux dire quelque chose qui révèle Dieu, quelque chose qui inspire notre adoration parce qu'il vient de lui. Et dans ce sens, la création est sacrée. Pourtant, elle n'est pas elle-même divine. Et c'est important parce que certaines personnes, en reconnaissant la beauté de la création et en voulant pas être comme les scientifiques modernes, certaines personnes imaginent que la création est elle-même Dieu, en quelque sorte. Mais c'est l'idolâtrie. Dans le monde ancien, il s'agissait littéralement d'idoles. Paul le dit en Romains 1, verset 22. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. La création n'est pas divine. Et quand on confond la création avec le Créateur, c'est l'idolâtrie. De nos jours, c'est l'un des problèmes avec certains mouvements soi-disant spirituels qui cherchent à valoriser et à protéger la planète sans reconnaître Dieu comme le Créateur. Ils imaginent que la terre est elle-même Dieu. Et ce qu'ils visent en termes pratiques, c'est souvent bien, mais les raisonnements sont faux. Nous devons protéger la terre, non pas parce qu'elle est divine, mais parce qu'elle témoigne du divin. Elle témoigne de son Créateur. Elle le loue même. Psaume 148. « Louez l'Éternel, Louez l'Éternel du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous, tous les anges, louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Louez-le. La création elle-même loue le Créateur. La prochaine fois que vous verrez le soleil, la pluie, un arbre, je vous encourage à laisser ces choses vous parler de Dieu. Prenez-les comme les signes du Créateur qu'elles sont. Et imaginez, si Dieu peut faire tout ça, si Dieu peut créer tout ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans votre vie? Qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie cette semaine même? La terre est remplie de la gloire de Dieu. Si nous avons les yeux pour le voir, si nous avons les yeux de la foi en Christ qui nous permettent de voir sa présence en toutes choses, nous verrons que nous faisons partie d'un grand cœur qui réunit toute la création pour chanter à notre Dieu merveilleux et plein de compassion. Et comme Jésus le dit, si nous nous taisons, les pierres crieront. Alors, que nous ne nous taisions pas cette semaine et que nous soyons prêts à voir le Créateur dans sa création. Et je vous invite à vous lever et rechanter à ce Dieu Créateur qui est tellement puissant et tellement bon, qui nous a donné toutes ces bénédictions.